Saviez-vous que l'une des plus grandes menaces à la rentabilité d'une PME dans le commerce en ligne, c'est littéralement de l'air vide?
Ah oui, de l'air. C'est fou quand on y pense.
Fait que si on s'arrête 2 secondes pour y penser, expédier de l'oxygène dans des boîtes de carton surdimensionnées, ben c'est une hémorragie financière silencieuse.
Absolument.
C'est le genre d'affaire qui peut carrément ruiner notre entreprise en pleine croissance, et c'est exactement ce qu'on va examiner aujourd'hui.
C'est un sujet tellement crucial.
Ouais, on plonge dans un document stratégique super fascinant qui décortique la transition critique entre une logistique manuelle, qu'on pourrait facilement qualifier de chaotique, et l'automatisation intelligente pour les petites et moyennes entreprises.
Et pour être précis, les sources qu'on a analysées utilisent la plateforme ClickShip comme étude de cas principale pour illustrer tout ça.
Exactement. Notre mission aujourd'hui dans cette exploration en profondeur, c'est de comprendre très concrètement comment la technologie transforme ce cauchemar logistique-là en un avantage concurrentiel majeur. Bon, décortiquons tout ça.
Je t'écoute.
Si on regarde les premiers jours d'une boutique en ligne, mettons, l'image qui me vient en tête, c'est vraiment celle d'un musicien homme orchestre.
Ah, j'aime bien l'analogie.
Tu sais, au début, on gère tout. On reçoit la commande, on tape l'adresse manuellement, on ouvre genre 4 portails web différents.
Post Canada, FedEx, UPS.
Ben oui, juste pour comparer le prix d'une seule petite boîte. Après, on imprime l'étiquette, on scotche la boîte en essayant de ne pas se couper. C'est de l'acrobatie.
C'est le cas de le dire.
Et honnêtement, c'est juste insoutenable à long terme.
Et c'est important de souligner que cette mentalité du système D, cette capacité à tout faire soi-même, c'est souvent ce qui permet à l'entreprise de survivre à ses débuts.
C'est clair, on n'a pas le choix au début.
Exact. L'énergie du fondateur ou de la fondatrice compense le manque d'infrastructure. Mais le document stratégique met le doigt sur une réalité mathématique inévitable.
Lequel?
Bien, dès que le volume de commandes augmente, disons qu'on passe de 10 à 50 commandes par jour, ces processus manuels-là deviennent le goulot d'étranglement principal.
Ah, ça bloque de partout.
Ce n'est plus juste une question de perdre du temps, c'est une question de risque d'erreur humaine qui
Ah
explose.
oui, la fameuse erreur de frappe.
Mettons une simple faute de frappe dans un code postal parce qu'on a fait un copier-coller un peu trop vite.
Aïe.
Le colis part à la mauvaise adresse, le client est furieux, il laisse une mauvaise évaluation et on doit payer pour réexpédier le produit.
C'est la catastrophe. Fait que la conclusion de notre source, j'imagine que c'est pas d'engager plus de monde.
Non, vraiment pas. La conclusion fondamentale, c'est que la solution pour soutenir la croissance, ce n'est surtout pas d'embaucher plus de monde pour faire le même travail répétitif ou de travailler plus d'heures dans l'entrepôt.
Ce serait comme mettre un diachylon sur une fracture.
C'est ça. La véritable solution, c'est de créer une architecture de travail qui évolue sans friction.
Ce qui nous amène directement au premier mur que frappe une PME qui grandit, la vente sur multiples plateformes.
Ah oui, le grand classique.
C'est ça, on commence sur Shopify, ça marche bien. Ensuite, pour augmenter les revenus, ben, on veut être partout.
C'est normal.
Fait qu'on ajoute une vitrine sur WooCommerce, on liste des produits sur Amazon, peut-être sur BigCommerce. Stratégiquement, c'est brillant pour capter différents marchés. Mais logistiquement,
C'est là que ça se gâte.
jongler entre 4 interfaces différentes, c'est un billet aller simple pour la maison des fous.
Totalement. Et le document explique que la solution, c'est la synchronisation multicanale via des outils comme ClickShip, qui ramènent tout ça sur un seul tableau de bord.
Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable une petite seconde.
Vas-y.
Pour une petite équipe, est-ce que c'est pas tout aussi efficace et surtout moins compliqué technologiquement de juste garder un bon gros chiffrier Excel centralisé?
Oh, la fameuse feuille Excel.
Ben oui, tu télécharges tes fichiers CSV de chaque plateforme le matin, tu mets ça dans ton Excel, tu tries tes colonnes, puis boum, le tour est joué, non?
Sur papier, c'est sûr que le chiffrier Excel semble être la solution la plus simple.
On l'a tous fait.
Mais regardons la mécanique de ce qui se passe réellement dans une journée de travail. Ce qui est fascinant ici, c'est que le simple fait de devoir exporter manuellement des données de 4 plateformes différentes, ça crée des problèmes.
Surtout que les formats sont jamais les mêmes.
Exactement. Tu dois formater les colonnes parce qu'Amazon ne nomme pas ses champs de la même façon que Shopify, et ensuite tu dois traiter ça. Ça crée une friction cognitive et opérationnelle énorme.
C'est épuisant.
Et le plus gros problème avec ton fichier CSV, c'est qu'il est mort à la seconde même où tu l'as téléchargé.
Attends, comment ça mort?
Il n'est pas en temps réel. Si tu as téléchargé ton fichier à 8 heures du matin et qu'à 8 heures et quart, un client annule sa commande sur Amazon ou change son adresse de livraison, ton fichier Excel ne le sait pas, lui.
Ah, wow! Fait que tu vas expédier un produit qui devrait pas l'être.
Exactement.
Ah, je vois le genre. C'est vraiment le décalage de l'information qui tue l'efficacité.
Exactement. C'est ce qu'on appelle la latence des données. Le tableau de bord unique change complètement la donne parce qu'il utilise des API, donc des interfaces de programmation, qui connectent tous les systèmes en temps réel.
OK, fait que c'est instantané.
Oui. Quand Shopify et Amazon convergent automatiquement vers une seule interface, une commande passée à 10 heures apparaît à 10 heures une minute, complètement standardisée.
Fait qu'on élimine la fameuse fatigue décisionnelle?
On l'élimine totalement. Plus de travail de secrétariat. Et même pour les marchés de niche très spécifiques qui n'auraient pas d'intégration API directe, le système permet quand même l'importation par fichier CSV ou XLS.
Ah, une solution de rechange.
Oui, mais la beauté fait que l'outil s'occupe du mappage des données automatiquement. L'objectif, c'est d'obtenir une cohérence absolue dans l'exécution.
D'accord. Fait qu'on a centralisé l'information. La commande est là, bien propre, sur notre écran. Le prochain défi, et c'est souvent là que les PME voient leurs profits s'évaporer, c'est de trouver comment expédier cette commande-là sans se ruiner.
C'est le nerf de la guerre.
Parce que, tu sais, les tarifs d'expédition, ça bouge constamment. Le document décrit ça presque comme une bourse de valeur en direct, mais pour la logistique.
C'est une très bonne comparaison.
Les prix des transporteurs fluctuent selon le prix de l'essence, la capacité disponible dans les camions, la saison, nomme-les. Si je cherche un prix manuellement un mardi, bien, ce tarif-là est peut-être déjà périmé le mercredi.
Et c'est là que l'automatisation entre en jeu.
Oui, l'automatisation règle ça avec un moteur de tarification en temps réel qui interroge plein de transporteurs simultanément. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Je t'écoute.
Ce que je trouve encore plus fou, c'est que la source indique qu'on peut afficher ces devis instantanés-là directement dans le panier d'achat du client.
Oui. C'est une fonctionnalité clé.
Mais est-ce que c'est pas un peu risqué d'exposer le client à la volatilité des prix des transporteurs au moment même où il s'apprête à payer?
C'est une excellente observation, mais en réalité, c'est tout le contraire.
Vraiment?
Oui. Afficher ses tarifs en temps réel, c'est ce qui crée un pont direct entre la logistique et la psychologie du consommateur.
Comment ça fonctionne?
Historiquement, l'expédition, c'était l'affaire du vendeur. Soit il l'assumait, soit il la cachait dans le prix du produit. Mais pourquoi les gens abandonnent-ils leur panier d'achat en ligne juste avant de payer, à ton avis?
Bien, souvent parce qu'ils voient le total final avec les frais et ils font le saut.
Exactement. Les études montrent systématiquement que la cause numéro un des abandons, c'est le choc des frais d'expédition imprévus à la toute dernière étape.
Ça m'est arrivé la semaine passée où j'ai tout fermé.
Voilà. En intégrant le moteur de tarification de ClickShip directement dans la boutique en ligne, tu redonnes le pouvoir de décision au client.
C'est-à-dire qu'on lui montre le vrai coût, sans surprise.
Mieux que ça encore, on lui offre un éventail d'options réelles.
OK, donne-moi un exemple.
Mettons un étudiant préférera peut-être payer seulement 6 $ et attendre 8 jours avec un transporteur standard.
Logique.
Mais une autre personne aura absolument besoin du produit pour demain matin et elle sera prête à payer un supplément de 25 $ pour un service express.
Fait que c'est le système qui fait les recherches.
Oui, le système interroge les transporteurs de colis ou même de palettes en direct et présente les choix. Le client sélectionne ce qui correspond à son budget et à son urgence.
Ça enlève la frustration.
Totalement. Psychologiquement, cette transparence-là crée un climat de confiance immédiat. L'automatisation ici, il ne faut pas le voir juste comme un outil pour sauver du temps à la personne dans l'entrepôt.
C'est un outil de vente, dans le fond.
C'est un mécanisme de conversion. Ça sauve littéralement des ventes qui auraient été perdues à cause d'un tarif d'expédition arbitraire.
OK. Fait que là, le client a payé, il a choisi son tarif, il est super content.
On passe aux choses sérieuses.
On arrive à l'étape physique. Il faut mettre le produit dans une boîte. Et c'est là qu'on vient à mon histoire d'air vide du début de l'émission.
Ah! Le fameux air vide!
Le piège du poids dimensionnel. La source explique en détail que les coûts d'expédition dépendent pas seulement de ce que pèse le produit sur une balance, mais de l'espace qu'il occupe dans le camion.
C'est super important de comprendre ça.
Moi, je vois la gestion manuelle des emballages comme une partie de Tetris, sauf que contrairement au vrai Tetris, où les blocs disparaissent quand tu réussis une ligne, dans le e-commerce, chaque espace vide que tu laisses dans une boîte signifie que tu paies littéralement un transporteur pour livrer de l'air.
C'est une image très forte et très vraie.
Mettons, si je mets une clé USB dans une boîte à chaussures, le transporteur va me charger le prix de la boîte à chaussures, pas le prix de la clé USB.
C'est exactement le concept. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, il faut regarder le modèle d'affaires de compagnies comme FedEx ou UPS.
C'est quoi leur modèle au juste?
Bien, leurs camions et leurs avions ont une limite de volume physique, d'espace cubique, bien avant d'atteindre leur limite de poids maximal.
Ah, fait qu'ils se remplissent avant d'être trop lourds.
C'est ça. Ils vendent de l'espace, pas juste des kilos. C'est pour ça qu'ils ont instauré le poids dimensionnel.
Comment ils calculent ça, ce fameux poids dimensionnel?
Le calcul standard, c'est de multiplier la longueur par la largeur par la hauteur de la boîte et de diviser le tout par un facteur dimensionnel spécifique au transporteur.
OK, ça sonne compliqué.
Le résultat te donne un poids fictif et le transporteur, lui, va te facturer le plus élevé entre le poids réel et ce poids dimensionnel-là.
Fait que si la boîte est trop grande, t'es le prix fort.
Exact! Si un employé dans l'entrepôt essaie de deviner la taille de la boîte à l'œil nu et prend une boîte trop grande pour un produit léger, l'entreprise va recevoir des frais d'ajustement surprise sur sa facture quelques semaines plus tard.
Aïe, le genre de surprise qu'on n'aime pas.
Ça détruit complètement la prévisibilité financière et les marges de profit.
Mais comment la technologie règle ça concrètement? Parce que, tu sais, un logiciel, ça peut pas plier le carton à la place de l'employé.
Non, c'est sûr. Mais le logiciel retire le travail de devinette. La solution proposée par la source, c'est un optimiseur d'emballage intelligent.
Comment ça marche en pratique?
Lors de la configuration du système, l'entreprise entre les dimensions numériques de tous ses produits et de toutes les boîtes vides qu'elle a en inventaire.
Fait que le système connaît tout.
Oui. Quand la commande rentre, l'algorithme géométrique de ClickShip calcule instantanément en arrière-plan la combinaison parfaite.
Il fait le Tetris à notre place.
C'est ça. Il dit à l'employé, prends exactement la boîte de 12 par 8 par 6 pouces pour cette commande. On minimise le vide.
C'est génial.
Et là où ça devient techniquement très pointu, c'est avec une fonctionnalité qu'ils appellent One SKU Multibox.
Oui, j'ai vu ça dans le document. C'est pour les articles complexes expédiés en plusieurs morceaux. Mais comment ça protège les marges, ça?
Mettons qu'on prend l'exemple d'une entreprise qui vend des meubles. Disons un bureau de travail en pièces détachées.
OK.
Tu as un grand plateau en bois très large d'un côté et de l'autre, tu as des pattes en métal très lourdes mais compactes.
Oui, des formats complètement différents.
Si tu essaies de regrouper ça artificiellement dans une seule immense boîte massive juste pour n'avoir qu'un seul numéro de suivi, cette boîte-là va dépasser les limites standards des transporteurs.
Ils vont t'imposer des frais supplémentaires.
Ils vont t'imposer ce qu'on appelle une pénalité de colis surdimensionné et ça peut coûter des centaines de dollars supplémentaires par envoi.
Juste pour une boîte épaisse?
Oui. La fonction Multibox, elle, permet de garder un seul code de produit, un seul SKU pour le client sur le site Web. Mais dans l'API du logiciel d'expédition, ça divise numériquement l'article en plusieurs profils dimensionnels distincts.
Ah, je comprends. Fait que le client voit un seul achat.
Exactement. Donc, le système imprime deux ou trois étiquettes différentes pour des boîtes de taille normale.
Et on évite la pénalité de surdimensionnement.
Tout en gardant l'expérience client fluide. C'est une protection des marges vraiment spectaculaire.
C'est fou de penser que la différence entre faire un profit ou perdre de l'argent sur une vente réside juste dans la géométrie de la boîte.
C'est le secret de la logistique.
C'est bon. Mettons que tu as la boîte parfaite, l'étiquette est prête, tu marches jusqu'à l'étagère pour prendre le produit et l'étagère est vide.
Oh, le pire scénario.
Le cauchemar total. Le client vient de payer pour un produit que tu n'as même plus en stock. Dans le document stratégique, il parle des ravages de la déconnexion entre l'entrepôt physique et la boutique numérique.
Oui, ça cause ce qu'on appelle de la survente.
C'est ça. Le client achète un produit en ligne, mais physiquement, le dernier exemplaire a été vendu la veille sur une autre plateforme et le système n'a pas été mis à jour.
C'est un problème classique.
Pour contrer ça, on parle d'utiliser un système de gestion des stocks, un SGS. L'SGS de ClickShip propose même de créer une cartographie virtuelle de l'entrepôt.
Oui, c'est fascinant.
Mais attends une minute, là. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Je veux qu'on s'arrête là-dessus.
OK.
Une PME avec un entrepôt de la taille d'un grand garage ou, tu sais, d'un petit local industriel, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une carte 3D virtuelle de ses étagères?
Je vois ce que tu veux dire.
Ça semble comme une solution de multinationale, pas comme un outil pour une équipe de 3 personnes. C'est pas un peu excessif, mettons?
C'est la réaction typique. Mais c'est un miette de penser que l'optimisation spatiale est réservée aux géants comme Amazon.
Vraiment?
En fait, une petite équipe en bénéficie presque plus parce qu'elle n'a pas la main-d'œuvre pour se permettre de perdre du temps. L'IMS, ou Système de gestion des stocks, c'est pas juste pour faire joli sur un écran.
Puis ça sert à quoi d'autre, alors?
Sans cette cartographie, un employé avec une liste de 10 commandes va se promener dans les allées un peu au hasard. Il va chercher le produit A au fond, puis réaliser que le produit B était juste à côté de l'entrée.
Fait qu'il fait des allers-retours pour rien.
C'est un gaspillage monumental de paille d'énergie.
Donc, ça fonctionne un peu comme un GPS pour l'entrepôt.
Exactement. Le système connaît l'emplacement physique exact, l'allée, l'étagère, le bac de chaque produit.
C'est ultra précis.
Oui. Et quand les commandes s'accumulent, l'IMS génère ce qu'on appelle un chemin de cueillette optimisé.
Un genre d'itinéraire.
C'est ça. Il dit à l'employé, vois dans l'allée 1, prends ceci, tourne dans l'allée 2, prends cela. On ne repense jamais deux fois à la même place. On marche moins, on trouve les articles plus vite.
Ça sauve un temps fou.
Et pour revenir à ton point sur la survente de tantôt, l'IMS synchronise les quantités en temps réel sur toutes tes plateformes et t'envoie des alertes de stock bas.
Fait que t'es jamais pris au dépourvu.
C'est critique parce qu'il n'y a rien de plus destructeur pour la réputation d'une marque que de devoir envoyer un courriel d'excuses pour annuler une commande à cause d'une survente.
C'est vrai, c'est hyper fâchant comme client.
Le client était super excité par son achat. Et tu transformes cette excitation-là en frustration. Un système de gestion des stocks intégré, c'est littéralement un bouclier de protection pour ton image de marque.
C'est une belle façon de le voir.
Il s'assure que la promesse que ton site web fait à ton client correspond à 100% à la réalité physique de tes étagères.
C'est tellement vrai. La confiance met des années à se bâtir et elle disparaît avec un seul courriel d'annulation. Bon. Récapitulons où on en est.
Allons-y.
L'inventaire est synchronisé en temps réel, nos boîtes sont optimisées géométriquement et les tarifs en direct ont donné le contrôle au client pour éviter qu'il abandonne son panier.
Tout est en place.
Mais il reste une dernière étape. L'humain qui doit valider et cliquer pour chaque commande.
Oui, le dernier goulot.
L'objectif ultime décrit dans notre source, c'est d'atteindre un état d'automatisation totale. Retirer complètement la prise de décision humaine une fois que la commande est payée. Le document mentionne la logique conditionnelle pour y arriver.
Oui, c'est la clé de voûte.
Explique-nous un peu comment ces fameux paramètres « si alors » fonctionnent sur le plancher.
Bien, la logique conditionnelle, c'est vraiment le cerveau de l'opération. Ce sont des règles préétablies que tu configures une seule fois dans le système.
Donne-moi des exemples concrets, Maton.
Parfait. Tu peux dire au système, si la commande pèse plus de 150 livres, alors ne l'envoie pas par un service de colis standard, assigne-la automatiquement à un transporteur spécialisé en charge partielle sur palette.
Ce qu'on appelle le fret LTL.
Exactement. Autre exemple, si la valeur totale de la commande dépasse 200 $, alors coche automatiquement l'option pour exiger une signature à la livraison.
Ah, pour éviter les vols sur les perrons.
C'est ça. Ou encore, si la commande veut dans un territoire éloigné précis, alors utilise toujours Posta Canada parce que c'est le plus fiable dans cette région-là.
C'est super intelligent. Donc, si je reprends mon analogie de tout à l'heure avec l'homme orchestre.
Oui, je l'aimais bien, celle-là.
On est passé de quelqu'un qui court partout à une rangée de dominos parfaitement installée. Mais c'est pas juste d'aligner des blocs bêtement. C'est comme si le système examinait la couleur et le poids de chaque domino qui arrive et décidait de lui-même quel chemin spécifique de domino faire tomber.
Sans que personne n'ait besoin d'intervenir.
Exact. L'employé arrive le matin et tout ce qu'il a à faire, c'est de pousser le premier domino.
C'est-à-dire imprimer l'alias d'étiquette de la journée?
Voilà. Le reste s'enclenche. Le transporteur reçoit l'alerte pour venir chercher la marchandise. Le client reçoit son courriel de suivi. Tout est fluide.
C'est une excellente métaphore. Et cela soulève une question importante qu'on voit souvent avec l'étude de code ClickShip présentée dans le document.
C'est quoi cette question, Alain?
Ça concerne leur modèle d'affaires. Historiquement, le frein majeur pour les PME face à ce genre de technologie, c'est la peur des coûts.
Ben oui, ça a l'air de coûter une fortune, tout ça.
L'idée reçue, c'est que l'automatisation de pointe nécessite des dizaines de milliers de dollars en intégration TI et des frais mensuels exorbitants.
Fait que les PME se disent, bon, on va attendre d'être plus gros.
Exactement. Mais l'évolution des plateformes en tant que service a nivelé le terrain de jeu. La source souligne que cette plateforme-là fonctionne sans frais d'installation ou d'abonnement mensuel fixe.
Attends, pas de frais fixes. Non, bon, c'est ça.
Pas seulement ce que l'on expédie. Ça élimine complètement la barrière du risque financier.
C'est un gros avantage.
Une entreprise qui expédie 5 colis par jour a accès exactement aux mêmes algorithmes d'optimisation de l'espace et au même routage que le géant qui en expédie 1000. C'est l'outil d'égalisation ultime.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la véritable scalabilité.
Tout à fait.
Tu as une infrastructure qui peut absorber un pic de vente lors du vendredi fou, mettons, sans que l'équipe panique et sans avoir besoin d'engager du personnel temporaire juste pour taper des adresses de livraison.
Exact. Ça change la vie.
Pour résumer ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, la grande leçon pour quiconque étudie la croissance d'une entreprise ou gère des opérations, c'est que la logistique, ça doit jamais être vu comme une simple corvée d'arrière-boutique.
C'est tellement plus que ça.
C'est pas juste mettre des trucs dans des boîtes. Retirer les frictions manuelles, c'est pas seulement pour sauver 3 heures de mot de temps ce vendredi après-midi.
Non, l'impact est beaucoup plus grand.
L'objectif, c'est de libérer un temps précieux et une charge mentale énorme. Ce temps-là, là où la propriétaire de la PME peut enfin le réinvestir là où ça génère de la vraie valeur.
Comme le marketing, le design...
Ben oui! Concevoir de nouveaux produits, améliorer le marketing, peaufiner l'image de marque et ultimement, propulser la croissance des revenus.
C'est le but final.
Quand la logistique est maîtrisée et automatisée, elle devient le moteur silencieux de la rentabilité de l'entreprise.
Et si on prend un peu de recul pour regarder la situation dans son ensemble, cette réflexion-là sur l'automatisation de l'expédition devrait nous servir de miroir pour le reste de nos opérations d'affaires.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Si un logiciel est aujourd'hui capable d'automatiser des décisions physiques aussi complexes, comme exécuter de la géométrie en 3 dimensions pour choisir la bonne boîte...
Le fameux Tetris.
Exact. Ou sélectionner en une fraction de seconde un transporteur de fret parmi des dizaines d'options, tout ça en éliminant complètement l'intervention humaine grâce à des simples règles de logique conditionnelle.
Ça fait réfléchir, c'est sûr.
Ça soulève une question fondamentale. Quelles autres opérations dans les entreprises modernes continuons-nous à traiter manuellement, à grands coups de copier-coller et de réunions inutiles, tout simplement par habitude ou parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait?
C'est une méchante bonne question.
L'automatisation n'est pas qu'une question de logiciel. C'est un changement de paradigme sur la valeur de l'attention humaine.
C'est le genre de réflexion qui remet vraiment en question la façon dont on structure notre travail au quotidien.
Je suis convaincue que oui.
C'est fou de réaliser que les outils, les fameux dominos, sont là, accessibles à tous, et qu'il suffit de prendre la décision de les aligner correctement pour changer radicalement la trajectoire d'une entreprise.
Il faut juste se lancer.
Voilà de quoi nourrir d'excellentes discussions pour les prochaines réunions stratégiques de ceux qui nous écoutent. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse d'aujourd'hui sur la logistique moderne et prenez le temps de repérer où se cache l'air vide dans vos propres processus.